Merci. Je vais prendre le. Si tu peux l'amener. En fait, les premières quelques fois que j'ai prêché dans ma vie, j'espérais et j'attendais vraiment que ça soit comme Pierre à la Pentecôte, où je me lève et l'esprit descend et ça part tout seul. Mais en fait, ça partait dans tous les sens. Et alors, moi, je me fie pas mal aux notes, je prépare en avance, bien sûr. Et ce matin, ça va être une occasion de dire ma reconnaissance, de témoigner et d'enseigner. Et je vais baser le message. Le message est basé sur deux textes, un court et un plus long. Le premier, c'est de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, les deux premiers versets, qui disent « Persévérez dans l'amour fraternel, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » Hébreux 13, versets 1 à 2. Donc, depuis que Mathieu m'a demandé de donner le message pour aujourd'hui, j'ai ce verset à l'esprit. Bon, j'ai deux en particulier, mais celui-là, tout particulièrement. Et une des raisons, c'est j'ai envie de vous remercier pour l'hospitalité, l'immense hospitalité dont vous avez fait preuve. Moi et ma famille, nous ne sommes pas des anges, mais quand même, il y a vraiment des immenses signes d'hospitalité depuis notre arrivée. Et je trouve que c'est vraiment une des forces de notre Église. Dès notre arrivée dans l'appartement, il y a Matt qui a débarqué en short, polo et ses Birkenstock, sandales. Je pense qu'il faut... il a les mêmes, Olivier. Je pense qu'il faut parler devant, il faut avoir des Birkenstock. Dans le marché, j'en ai pris. Non, mais j'en ai, je les ai pas portés, mais j'en ai pris aussi chez Leclerc, pas cher. Et il nous tendait un sachet de nougat, mais il est arrivé. Quand il est arrivé, c'était comme il était pressé. C'était le jour, en fait, c'est le jour après notre arrivée. Il est arrivé comme s'il était pressé, et il tendait le sachet de nougat, mais tu avais l'impression qu'il aurait vraiment. Il aurait vraiment aimé en avoir 100 sachets. Vraiment, dans ses yeux, dans sa posture, dans sa façon de faire, c'était vraiment, il était pressé de nous accueillir, pressé de nous montrer de l'hospitalité. Donc, après un peu de conversation amicale, il nous présente aussi une enveloppe. Et il dit, voici, ça c'est de la part des hommes de l'Église, on voulait juste vous bénir. Alors, j'avais parlé... avec Matt et Olivier, leurs épouses, par Zoom une fois. On se connaissait à peine. Les autres hommes de l'Église ne me connaissaient pas du tout. Mais alors là, il me tend un enveloppe rempli de billets, juste pour nous bénir. Et je ne sais pas, mais pour moi, quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas juste un simple « bonjour, bienvenue à Montélimar ». Il y a autre chose. Tout de suite, l'Église a mis du sien pour nous accueillir. Et ça illustre ces versets. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité qu'en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Encore, je ne suis pas un ange, mais c'est comme Dieu a envoyé ces anges pour ouvrir notre chemin pour venir à Montélimar, pour venir en France. Et j'aimerais dire quelques mots dessus. Olivier en a déjà parlé un petit peu, et certains parmi vous connaissent déjà notre histoire. Mais j'aimerais bien vous raconter que Dieu nous avait fait comprendre, Nathalie et moi, ma femme et moi, que le moment était venu de rentrer. Ma femme est française, elle est de la Drôme. Moi, j'avais passé du temps en France. Mais après notre mariage, on avait passé 17 ans aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Et on a entendu de la part du Seigneur, c'est le moment de rentrer. Et il nous a même indiqué l'endroit. Il nous a fait comprendre que c'était Montélimar. Donc, c'était, en fait, il y avait le message de la part de Dieu, c'était, ce qui était clair, c'était rentrer en France, Montélimar, et ne tardez pas. Mais quand même, le Seigneur était très patient avec nous parce qu'on n'est pas, on n'a pas fait nos valises tout de suite. On a pris un an pour essayer de bien discerner, bon, est-ce qu'on a bien entendu, comment est-ce que ça va marcher, comment ça va se faire, quels sont les détails. Alors, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. C'était le mercredi avant Pâques 2021. Et ça faisait un an depuis qu'on avait entendu cet appel de la part du Seigneur. Et si vous aimez avoir des détails par rapport à comment on a entendu, je serais content de vous raconter un à un. Alors, ça faisait un an depuis qu'on avait compris. Et j'étais au téléphone avec un copain français, un frère en Christ qui me connaît très bien. Et on discutait des choses pratiques, comment ça pourrait marcher pour revenir. Et quand il s'arrête, il me dit, Peter, juste viens. Viens, tu trouveras du boulot une fois sur place. Tu resteras chez ta belle famille le temps que les choses se mettent en place. Et même si tu ne trouves pas de boulot tout de suite, alors peut-être c'est ce que Dieu veut, parce qu'il veut que tu fasses une pause. Et pour la première fois, ça ne me faisait pas peur. Parce qu'il faut dire que pendant 17 ans, mon pire cauchemar, c'était de parachuter en France avec ma femme et mes enfants et me retrouver au sous-sol de mes beaux-parents. Tu vois, sans situation, et pour moi, ça serait la honte. Mais pour la première fois, ça ne me faisait pas peur. D'entendre, de réfléchir, de considérer cette possibilité ne me faisait pas peur. Sans blague, tout de suite après cette conversation téléphonique, j'étais encore aux États-Unis, mon ami est en France, je partais pour un culte personnel quotidien, en fait, pour m'aider à discerner la voix du Seigneur, bien discerner ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Je m'étais engagé avec un groupe d'hommes d'une autre église où, pendant les 3 mois avant Pâques, on s'engageait individuellement à prier tous les jours pendant 1 heure et à lire le livre d'Exode. Et donc, voilà, donc après cette conversation avec mon ami, je suis parti faire cette 1 heure de prière et de lire le passage d'Exode de la journée. Alors, le passage ce jour-là, c'était par rapport aux 12 espions. Qui connaît le passage des 12 espions dans l'Ancien Testament, dans l'Exode? Alors, Dieu leur avait dit, en fait, ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, et ils s'apprêtaient à passer le Jourdain. Jourdain. C'est écrit ici, mais bon. Mais ils avaient trop peur. Ils avaient trop peur. Ils ont vu que les habitants du pays promis étaient grands, que eux, ils se sentaient petits à côté d'eux. Ils se disent, ça se fera jamais, on n'a pas les moyens. Et le commentaire qui accompagnait ce texte ce jour-là disait, c'est pas que les Israélites ne savaient pas que Dieu attendait d'eux, c'était qui voulait des détails. Ils voulaient des détails, et sans que Dieu leur donne pas les détails à comment ça allait se passer, ils ne passeront pas le Jourdain. Alors ils ne sont pas passés. Et ils ont vadrouillé dans le désert pendant 40 ans. Et alors le parallèle avec notre situation était très clair, et je me suis levé de ce moment de prière en me disant, ok, c'est bon, c'est terminé. Le temps de discernement est fini. Et là, on a commencé, c'était le mercredi avant Pâques. Le lundi avant Pâques, c'était vraiment nos premiers pas concrets pour revenir en France. Et c'était comme le Seigneur a ouvert le chemin. C'est comme ses anges sont allés au-devant de nous, tu vois, pour ouvrir le chemin. Tout allait de soi, un peu comme 40 ans plus tard dans le désert. le peuple s'apprête à passer le Jourdain dans le pays promis, et dès que les prêtres qui tenaient l'arche de l'Alliance mettent le pied dans l'eau du fleuve, les eaux se sont séparées. Et on avait l'impression que quelque chose de semblable se passait pour nous. Et l'hospitalité, votre hospitalité, faisait partie de ces signes, de cette faveur de la part de Dieu. Et je trouve que ça reflète une culture, chez nous, une culture dans l'Église, où on croit que Dieu agit aujourd'hui et qui nous invite à participer dans ses projets. Des projets d'une immense gloire, d'une immense importance. Je ne suis pas en train de dire que moi et ma famille, que nous sommes le point focal des projets de Dieu, mais que votre hospitalité a confirmé ou a affirmé que nous étions sur le bon chemin. Merci Seigneur. Et Matt, en arrivant chez nous avec le sachet de nougat, n'était que le petit bout de l'iceberg de toute l'hospitalité qu'on a reçue. Invitation après invitation, des gens qui passent avec ou sans annonce, qu'on adore d'ailleurs, si vous passez à l'imprévu, on adore ça, à l'improviste. Alors pendant les premières deux semaines, c'était tout le monde nous recevait chez eux. Et ça prenait beaucoup de temps pour dire tout le monde, mais je vais quand même dire un nom, David Bruce, vous connaissez, qui nous a tellement aimé à monter nos meubles, à plein de choses. Merci David. Alors, les témoignages comme ça que je viens de raconter, ils ont leur valeur dans notre édification, mais on a besoin aussi de la parole de Dieu pour encadrer ce que nous vivons et de donner du sens à nos expériences, la fondation de notre instruction pour comment vivre, quoi faire et discerner la voix de Dieu, c'est quand même la Bible, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à tendre l'oreille et écouter Genèse chapitre 18, du début jusqu'au verset 22. C'est un des passages auxquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence, quand il dit « Certains, à leur insu, ont logé des anges. » Alors, ça aurait aidé de marquer ma page. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils.
Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit, et en elle-même, en disant « Maintenant, je suis usée. Aurais-je encore des désirs ?» Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, » dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, « Si, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre un congé d'eux. Or l'Éternel avait dit, « Cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à sa fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme et le péché si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Parole du Seigneur. Énormément de détails dans ce passage. Et il y a presque infiniment de choses qu'on pourrait dire. Mais moi, je veux souligner certaines de ces choses qui sont très, très importantes. Alors, au début du passage, Abraham est à l'entrée de sa tente au moment de la chaleur du jour. Il ne fait pas la sieste. C'est comme il attend, comme la posture de l'attente devant Dieu que j'ai mentionné tout à l'heure. La Bible ne dit pas explicitement qu'il était dans l'attente, mais sa façon d'agir quand les trois hommes apparaissent semble montrer qu'il sait que c'est une occasion à ne pas rater. C'est un rendez-vous divin et non pas simplement une occasion d'exercer l'hospitalité typiquement orientale, mais il y a autre chose. On n'est pas sûr si Abraham comprend au départ que c'est Dieu lui-même accompagné de deux anges, mais nous voyons qu'il sait, qu'il comprend, il comprend avant la fin de la visite. Qu'importe le moment où Abraham prend conscience de ce qu'il a à faire, à qui il a affaire, sa façon de les accueillir est quand même curieuse. Et je veux souligner quelques trucs quand même très curieux. Il leur dit au verset 4 qu'on apporte donc un peu d'eau pour laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain. Un morceau de pain. Alors, il va vite retrouver sa femme Sarah et lui dit de préparer trois mesures de farine. C'est la première fois qu'une unité de capacité, de volume est mentionnée dans la Bible, à ce moment-là. Trois mesures de farine. Et le mot pour mesure ici, c'est séa. Et selon certaines sources, au moins, ça égale 12 litres. Un séa égale 12 litres. Donc il dit à sa femme de prendre 36 litres de farine après avoir proposé un morceau de pain. Il va ensuite choisir un veau, le petit d'une vache, bien sûr,
pour le faire préparer, pour le faire cuire pour ses invités. Et à ce propos, la semaine dernière, on a eu le plaisir de visiter une ferme laitière, un élevage de vaches. Et j'avais déjà commencé à méditer ce texte, et je demandais au fermier, je lui ai demandé, alors, dis-moi, quand est-ce qu'un veau est prêt à être préparé à manger? Il a dit, bon, un veau qui va être abattu, qu'on voit à l'abattoir, ça serait entre 3 et 6 mois. Et j'ai dit, ça donne combien de viande, un veau? Et sans hésiter, il a dit 120 kilos. Un veau donne 120 kilos de viande. Alors, après avoir proposé un morceau de pain, Abraham fait préparer assez de pain pour bien remplir une boulangerie et pour subvenir aux besoins des réunions Akilelu pendant une décennie. Parce qu'on mange bien aux réunions Akilelu. Notre histoire. C'est au-delà de la demesure pour trois hommes assis sous un chêne, faisant une pause avant de reprendre leur route. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réfléchissons au contexte. Les hommes annoncent que Sarah, dans sa vieillesse, va avoir un fils dans l'année qui suit. C'est le fils de la promesse. Et c'était déjà annoncé avant dans la Genèse. Ce n'est pas la première fois que Dieu annonce qu'il va avoir un fils. Et ça va être le fils va être le premier dans une ligne de descendants qui culminera avec un descendant, le Messie, le Fils de Dieu, qui sauvera une multitude innombrable de toutes les nations de la terre par le pardon de leur péché. C'est-à-dire Jésus de Nazareth, né de Marie à Bethléem, Bethléem qui veut dire maison du pain. Abraham, d'une manière prophétique, prépare la table du Seigneur pour toutes les nations. Le festin des noces de l'agneau qui aura lieu à la fin des temps. Tout le monde est invité et il n'y a que Jésus qui peut réserver ta place. Car c'est lui qui a payé le prix d'entrée par sa mort sur la croix. Alors, sous les chaînes de Mamré, Dieu réitère cette promesse qui arrivera par Abraham. Il finit le repas et il se lève avec les deux hommes qui l'accompagnent et il tourne le regard vers Sodome. C'est au verset 16. « Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. » Et à chaque fois que je le lis, ce verset me fout la trouille. Quand je relisais ce texte, à chaque fois que j'arrive à ce verset-là, c'est comme je ne peux que faire une pause. Car le festin des noces de l'agneau, la grande fête dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, que le repas qu'a fait préparer Abraham indique, n'est pas pour tout de suite, et notre mission sur la terre, dans cette époque, maintenant, ne s'arrête pas à se montrer l'amour fraternel par l'hospitalité. Elles s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus grande. Abraham a réellement préparé ce repas à peu près 1700 ans avant Jésus-Christ. Et il indique une vraie fête. Le repas, c'est comme un geste prophétique qui indique la fête qui aura lieu dans l'avenir. De même, ce qui est arrivé à Sodome est aussi réel. Et c'est aussi un signe d'autre chose qui aura lieu dans l'avenir. Je ne vais pas le lire, mais le chapitre suivant décrit une méchanceté tordue, imprononçable des gens de Sodome. Et Dieu les oblitère. Il les anéantit. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai su ça cette année, J'ai regardé un entretien avec un chercheur qui avait une idée où pourraient se trouver les villes de Sodome et Gomorre, les restes, les ruines des villes de Sodome et Gomorre. Et il a trouvé, il y a un vocabulaire archéologique que je n'ai pas mémorisé, mais il a trouvé ce qu'on appelle un tel, c'est un tas de terre qui indique qu'il y a eu probablement une civilisation. Il en a trouvé un énorme au milieu du désert de la Jordanie. Et ils ont des moyens de dater les couches de terre et de dater les couches de terre qui représentent différentes civilisations. Et ils sont arrivés à une couche qui aura existé à peu près 1700 avant Jésus-Christ. Et ils ont trouvé un mélange d'ossements, morceaux d'os, de briques et de poterie, mais tout mélangé. Tout mélangé. Et certains morceaux de la poterie ressemblaient vachement à ce qu'on appelle de la trinitite. La trinitite, ce n'est pas un élément, mais c'est ce qui arrive quand une bombe nucléaire explose près de la Terre. Ça fait une sorte de verre qui a des propriétés tout à fait particulières. Et il y avait un chercheur sur le site à ce moment-là qui avait travaillé dans le Nouveau-Mexique où ils ont testé des bombes nucléaires. Et tout de suite, ils reconnaissaient, ah, c'est un morceau de trinitite. Ils l'ont envoyé au laboratoire au Nouveau-Mexique pour confirmer que c'était la même chose. C'est un verre qu'on ne peut pas produire avec des fours. C'est qu'avec une chaleur si intense que c'est dans notre connaissance, à part le soleil, qu'on ne peut pas s'approcher au soleil, c'est une explosion atomique vers le centre d'explosion. Et je dis tous ces détails tout simplement pour dire que comme le repas qu'Abraham a préparé a vraiment eu lieu et qui était un signe, aussi la destruction de Sodome et Gomorre a réellement eu lieu et c'est aussi un signe du jugement à venir. Comme la promesse du salut de ceux qui viennent à la table du Seigneur par la foi en Jésus, le descendant promis, il y a aussi la promesse d'un jugement final pour ceux qui ne se repentent pas, pour ceux qui se moquent de Dieu. Et ce n'est pas une coïncidence que ces deux événements sont côte à côte dans ce chapitre. L'annonce du salut et l'annonce du jugement. Et à mon avis, ça devrait faire un peu peur. On devrait, pas quant à notre salut à nous, mais ça devrait évoquer en nous ce que la Bible appelle la crainte, la sainte crainte du Seigneur. Ce qui m'amène à un dernier point, je conclue. Moi, je suis très encouragé parce que le fardeau des âmes fait aussi partie de notre culture d'Église. Qu'il en reste ainsi, que notre hospitalité envers les uns les autres continue, accompagnée du vif désir que nos amis, nos collègues, nos voisins, les membres de notre famille, qui ne sont pas encore dans l'attente du repas céleste à la table du Seigneur, que eux, ils arrivent à demander à Jésus une place, car ils désirent les accueillir, et nous sommes les moyens de cette invitation. L'invitation est pour tous, sans exception, comme Dieu a promis à Abraham il y a si longtemps. Et finalement, merci encore pour votre amour fraternel, qui est continuellement manifeste de manière concrète. Nous sommes heureux d'être assis à la table du Seigneur avec vous et de faire partie de la même mission. Alléluia.